Bonjour à tous. Des mesures plus contraignantes sont annoncées en Gironde et dans les Bouches-du-Rhône. Abaissement de la jauge pour les événements publics, restriction des visites dans les EHPAD, limitation des rassemblements privés. La responsabilité tombe sur les citoyens alors qu'il faudrait mettre les moyens sur l'hôpital et les tests, nous dit un médecin urgentiste dans ce journal. Nous reviendrons ensuite sur les accusations de harcèlement sexuel à l'encontre d'un élu de Paris. Cela fait beaucoup à la mairie. Et puis, quelle promesse de Vladimir Poutine à Loukachenko? Un prêt à plus d'un milliard de dollars et une emprise toujours plus grande. Nous irons à Moscou dans cette édition. Les préfets de Gironde et des Bouches-du-Rhône ont donc pour tenter d'enrayer la propagation du nouveau coronavirus. Interdiction de se rassembler à plus de 10 dans les jardins, les parcs et les quais à Bordeaux. La jauge des salles de spectacle et des stades est ramenée à 1000 personnes maximum en Gironde. Les pensionnaires des EHPAD ne seront autorisés à avoir que 2 visiteurs par jour, pas plus. Mesure similaire dans les Bouches-du-Rhône avec l'obligation également de porter le masque dans 27 nouvelles communes entre 6h du matin et 2h la nuit d'après. Des décisions contraignantes que conteste Christophe Prudhomme. Le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France était hier soir l'invité de Stanislas Vazak dans le journal de 22h de France Culture.
Nous savons ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Pouvoir tester rapidement et isoler les personnes qui ont été testées positives. Deuxièmement, il faut que l'hôpital soit en capacité d'accueillir un flux de malades qui n'est pas énorme. Écoutez, aujourd'hui, regardez les chiffres d'hospitalisation et du nombre de malades en réanimation. Nous sommes à des chiffres qui sont relativement faibles, même s'ils ont augmenté légèrement ces dernières semaines. Mais pourquoi la situation est tendue? Parce que les hôpitaux sont à l'os et que nous sommes revenus à une situation des hôpitaux pire qu'avant la crise du coronavirus. Nous avons aujourd'hui moins de lits, nous avons du personnel épuisé, il n'y a pas eu de recrutement, il n'y a pas eu d'ouverture de lits supplémentaires, alors que la spécificité de la crise en France, à la différence d'autres pays qui ont eu un nombre de malades similaires, c'est pourquoi l'hôpital a été en crise. Parce que l'hôpital manquait de moyens, manquait de lits. 5500 lits de réanimation en France aujourd'hui, alors que l'Allemagne en a rapporté à sa population 3 fois plus. Donc en Allemagne, quand les malades arrivent, il n'y a pas de problème. Les lits sont disponibles. En France, dès qu'on a quelques dizaines de malades supplémentaires, nous sommes en situation de catastrophe parce que on n'a pas prévu d'augmenter le nombre de lits. Qu'a-t-on fait depuis le mois de mai? Depuis le mois de mai, le nombre de malades a diminué. Sauf qu'on savait qu'avec le déconfinement, à un moment donné, il allait remonter.
Je précise par exemple qu'à Marseille, sur les 155 lits dédiés aux malades du Covid-19 dans les hôpitaux publics, 129 sont occupés actuellement. Il reste 4 lits disponibles en réanimation. Il est hospitalisé à Paris. Valéry Giscard d'Estaing souffre de problèmes respiratoires. L'état de santé de l'ancien président, âgé de 94 ans, toutefois, n'inspire pas d'inquiétude immédiate, selon l'un de ses fils. Nouvelle démission à la mairie de Paris, sur fond de scandale sexuel. L'adjoint chargé de la Seine, Pierre Edenbaum, a quitté hier son poste après l'ouverture d'une enquête qui le visait. Il est accusé de harcèlement sexuel à l'encontre d'une collaboratrice, Antoine Marette.
C'est la ville de Paris qui a annoncé hier après-midi la démission de Pierre Edenbaum. Une décision qui intervient, selon le communiqué, à la suite de la révélation de possibles faits de harcèlement sexuel à l'encontre d'une collaboratrice. Les faits ont immédiatement été communiqués au procureur de la République. Le parquet a ouvert une enquête pour agression sexuelle. Selon ses avocates, l'ancien maire du 3e arrondissement affirme que la relation qu'il a eue avec cette femme n'avait rien de délictuel. Il demande à être entendu le plus rapidement possible par la justice pour, je cite, « faire la parfaite démonstration de son innocence ». C'est la deuxième démission sur fond de scandale sexuel qui atteint l'équipe d'Anne Hidalgo. En juillet dernier, Christophe Girard avait quitté ses fonctions en raison de sa proximité passée avec l'écrivain Gabriel Matzneff, soupçonné de pédophilie. Anne Hidalgo avait alors pris la défense de son adjoint en dénonçant, je cite, « l'hystérie militante d'élus écologistes ». Un mois plus tard, Christophe Girard était visé par une enquête pour viol. Cette fois-ci, la mairie prend clairement ses distances avec Pierre Edenbaum et précise qu'elle demeurera, je cite, « intraitable avec tout type de fait de harcèlement moral ou sexuel, quelle que soit la qualité de leur auteur ». Elle ajoute que la ville compte, depuis 4 ans, un service d'accueil et d'accompagnement des victimes.
La Russie confirme son soutien au président biélorusse. Pour sa toute première sortie à l'étranger depuis sa réélection jugée frauduleuse, Alexandre Loukachenko s'est rendu hier à Moscou. Il est allé chercher le soutien de Vladimir Poutine après des semaines de contestation dans les rues en Biélorussie. Et le président russe s'est effectivement dit convaincu qu'Alexandre Loukachenko pourrait résoudre cette crise politique. Il lui a même promis un prêt, 1,5 milliard de dollars, Claude Broyau.
Un prêt pour financer le remboursement d'autres prêts, un soutien mesuré et surtout conditionné par l'annonce d'une intégration accélérée. Comme prévu, Vladimir Poutine a verrouillé la réunion dite de travail avec Alexandre Loukachenko, venu lui chercher le moyen de prolonger son bail au pouvoir. Pendant que le président biélorusse multipliait les remerciements envers son hôte et le peuple russe pour leur main tendue, le maître du Kremlin, lui, est allé à l'essentiel, des fonds comme convenu en ces moments difficiles, a précisé Vladimir Poutine, qui sait que 60% de la dette biélorusse appartient déjà à la Russie. Et lorsqu'Alexandre Loukachenko évoque les menaces occidentales aux frontières et demande à ce que les deux armées soient prêtes, dans un dialogue bien réglé, Vladimir Poutine enfonce le clou en matière de coopération militaro-industrielle. Il ne reste plus alors à la communication du Kremlin qu'à apporter la touche finale. C'est dit, Alexandre Loukachenko est le président légitime de la Biélorussie et une réforme constitutionnelle qui reste à écrire absorbera la fronde populaire. Fidèle à sa diplomatie depuis 20 ans, Vladimir Poutine préfère donc aux marges de la Russie soutenir un régime vacillant, quitte à préparer son remplacement en moyen terme, plutôt que de partir dans une aventure trop risquée. Le président russe montre de la sorte qu'il n'a aucune confiance dans cette opposition biélorusse qui se dit pourtant ni pro-européenne ni anti-russe.
Et de son côté, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU réclame une réunion d'urgence sur la situation en Biélorussie en ce moment. Il dénonce les répressions et les allégations de torture envers les détenus sur place. L'ancien collaborateur de Carlos Ghosn, Greg Kelly, fait face à la justice japonaise aujourd'hui. Il est soupçonné d'avoir conspiré pour minimiser les revenus de l'ancien président de l'Alliance, Renault Nissan, plus de 70 millions d'euros. Greg Kelly dément toute malversation. Tout comme d'ailleurs Carlos Ghosn, qui, je vous le rappelle, a fui au Liban à la fin du mois de décembre, c'était l'année dernière. Aux États-Unis, dans l'État de Californie, ravagé par les flammes, Donald Trump assure que le climat finira par se refroidir. Le mercure a atteint plus de 49 degrés au nord de Los Angeles ces derniers jours. Plus d'un million d'hectares ont brûlé dans cet État, plus de 3 millions au total sur la côte ouest, faisant une trentaine de morts depuis le mois d'août. D'une phrase, le président américain a donc balayé les inquiétudes sur le réchauffement climatique. « Je ne pense pas que la science sache réellement », a-t-il affirmé dans la foulée, face aux autorités locales et aux experts qui pointent une sécheresse chronique sur place. Donald Trump qui est visé par le nouveau livre de Bob Woodward aujourd'hui. Le célèbre journaliste d'investigation est à l'origine de l'enquête sur le Watergate et la chute de Nixon en 1974 et il publie donc aujourd'hui « Rage » après 18 interviews du président américain. Des conversations au téléphone pour beaucoup qui ont été enregistrées, Valérie Cantier.
Donald Trump a accordé à Bob Woodward 9 heures d'interview, toutes plus choquent les unes que les autres. Par exemple, le président américain revient sur ses liens avec le président turc Erdogan.
Je m'entends très bien avec Erdogan, même si je ne suis pas censé parce que tout le monde dit quel horrible type. Je peux vous dire que plus ils sont durs et méchants, mieux on s'entend.
Et puis le 7 février, Donald Trump dit à Bob Woodward « Le coronavirus est grave, mais je ne veux pas que les Américains paniquent ». Pour John Villasenor de l'Université de Californie à Los Angeles, les réactions sur les réseaux sociaux à la suite de ces révélations montrent une fois de plus une Amérique coupée en deux.
Pour la plupart des gens à gauche, c'est la preuve que le président a compris la gravité du virus, mais a intentionnellement minimisé cette gravité. Il a donc menti et c'est inexcusable. À droite, les gens entendent exactement les mêmes citations, mais s'ils voient là un leader faisant son boulot et évitant de créer la panique parmi la population.
Donald Trump a-t-il mesuré la portée de ses propos une fois qu'il serait révélé au grand public? Lui dit simplement qu'il a accordé ses 18 interviews en se disant « ça fera un livre, on verra bien ce que ça donnera ».
Et vous pouvez retrouver l'interview de John Villasenor par Valérie Cantier en longueur sur notre site internet franceculture.fr. faire comme tous les mardis. Après des records hier pour un mois de septembre, la météo ne bouge pas d'un Celsius ou presque. Ce matin prévoyait 17 degrés à Brest, 20 à Lille, Paris, Dijon et Lyon, 22 degrés à Bordeaux, 23 à Marseille, 26 à 36 degrés cet après-midi.